Bienvenue dans notre podcast Tech for Good par Socialware. Socialware, c'est l'accès au numérique pour les associations du Benelux. Vous ne nous connaissez pas? Faites donc un tour sur nos sites web, socialware.be pour la Belgique et socialware.lu pour le Luxembourg.
C'est la question de se dire finalement comment est-ce qu'on peut créer du lien? Comment est-ce qu'on peut finalement, grâce à cet outil, quand on est tous derrière un écran, arriver à cette spontanéité? Et en fait, la solution, c'est de se dire qu'on ne doit pas forcément essayer de transposer dans le monde numérique.
Dans cet épisode, nous recevons deux personnes. Géraldine Buchen, fondatrice du programme XR for Heritage. L'idée de XR for Heritage, c'est de voir comment les technologies émergentes, les réalités étendues, donc réalité augmentée par exemple, peuvent se mettre au service du patrimoine. Comment créer de l'impact avec ce programme? Comment réussir à engager, à emmener des publics vers de nouveaux territoires? Ce sont les questions qu'elle se pose au quotidien.
Un cas intéressant que j'ai eu l'occasion d'accompagner l'année dernière, c'était le cas de la Foire du Livre de Bruxelles, qui très tôt a dû repenser complètement son modèle, puisque évidemment, en période Covid, des gros événements comme ça, c'était absolument inconcevable de les organiser. Et donc, en 2021, la Foire du Livre de Bruxelles a eu lieu dans des lieux quand même, mais de manière très décentralisée, donc plus le mastodonte événementiel qu'on connaît, mais dans des petits lieux. Et en parallèle, il y a eu toute une curation en ligne avec la création d'un média qui permettait finalement à la Foire du Livre de se raconter non seulement pendant l'événement, mais aussi à l'année. Donc il y avait vraiment cette préoccupation dans le chef des organisateurs de la Foire de se dire on est un acteur, ok, on a un acteur commercial autour du livre, hein, ça c'est sûr, on est connu comme ça, mais on est aussi un acteur de médiation culturelle.
On l'écoute en parler ici aux côtés de Delphine Genard. Elle accompagne les organisations dans leur voyage vers le numérique. Elle intervient notamment dans plusieurs secteurs, celui de la formation avec le développement des compétences numériques ou encore à travers son rôle d'enseignante sur des questions de communication et de médiation culturelle. Elle a co-dirigé le Mondaneum de Mons, aussi appelé Google de papier, car considéré en Fédération Wallonie-Bruxelles comme l'ancêtre des moteurs de recherche actuels. Delphine Genard est aujourd'hui également gestionnaire de projet en charge des affaires publiques et du développement des activités chez Technocité, un centre de compétences situé dans le Hainaut, et dont les domaines d'activité concernent par exemple les technologies de l'information et de la communication, ainsi que des industries culturelles et créatives. Voilà un peu pour l'introduction de nos deux interlocutrices qui s'échangent le mot et à qui j'ai laissé le micro dans cet épisode sur le sujet de l'éditorialisation du secteur associatif à travers sa digitalisation.
En ce qui concerne donc les axes et les objectifs qui peuvent être atteints grâce au numérique, on en a quatre principaux, donc l'inclusion, l'éducation, la préservation et la valorisation. Quatre axes qu'on va essayer de vous illustrer par des exemples concrets pour que vous puissiez voir comment vous les appropriez.
Elles vous partagent leur point de vue sur le numérique et sur la transformation des organisations qu'ils impliquent. Elle le voit comme une opportunité de se raconter et de s'éditorialiser pour mieux visibiliser ses activités, pour communiquer davantage peut-être, voire avoir un impact social plus grand. C'est donc au travers de quatre axes, comme l'a montré donc le court extrait, qui sont autant d'objectifs qu'elles donnent leurs conseils et leur expérience du terrain. D'abord à votre association active dans la culture, mais également à toute autre association désireuse de créer un média ou de créer un meilleur relais de communication et plus. Autant donc de sujets très intéressants, me direz-vous. Alors, c'est parti pour l'écoute.
Alors, le numérique comme outil d'inclusion, c'est vrai qu'il y a une réflexion assez importante sur comment on va être davantage quelque part incluant ou grâce à l'interactivité que va pouvoir permettre la technologie numérique. Il y a un bel exemple que j'aime toujours bien prendre. J'ai été au contact en fait d'un auteur qui s'appelle Karim Ben Khalifa, qui est un photoreporter originaire de Bruxelles, mais qui s'est exilé aujourd'hui, il vit à Berlin, et qui a créé dans les années 2014-2015 un documentaire immersif qui s'appelle The Enemy. Dans sa réflexion à Karim, il souhaitait finalement pouvoir venir avec une œuvre qui impacte davantage les esprits, parce que au fil de sa carrière de photoreporter de guerre, il se rendait bien compte que ramener des images du front, alors qu'on était tous hyper saturés d'images, ça ne générait plus du tout aucune sensibilisation, aucune action au niveau du public. Et donc, il a vraiment réfléchi à comment mobiliser bien l'image et puis tout son travail de journalisme au profit de la de l'impact sur les consciences, pour comment pouvoir générer de l'empathie. Et donc, il a créé vraiment tout un dispositif en réalité virtuelle. Et c'était vraiment l'idée de mettre, de plonger le visiteur dans un univers où il se retrouvait en présence de personnes qui étaient des ennemis viscéraux. Donc, ces personnes, si vous les mettez dans la même salle, ils s'entretuaient. Par exemple, le conflit israélo-palestinien, ou bien un Hutu versus un Tutsi. Et donc, de pouvoir organiser finalement une expérience ambulatoire en réalité virtuelle pour pouvoir entendre le récit de ces combattants et entendre pourquoi bien ils nourrissaient une haine tellement féroce à l'égard de l'autre clan, mais aussi comprendre ça en remettant dans un contexte. Et quelque part, c'est une œuvre très pacificatrice parce qu'elle permet vraiment de rentrer dans la réalité et de générer quelque part de l'empathie par rapport à des sujets qui sont vraiment très 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 complexes. Et dans la même veine, il y a aussi une réflexion autour de l'aménagement d'un projet autour de la Lever House à Bruxelles et qui est rentré dans le lab piloté par Géraldine, le XR for Heritage, où il y avait une réflexion de savoir comment au départ d'un patrimoine colonial, puisque la Lever House ça représente finalement la une maison qui était un centre finalement de la propagande coloniale belge, et bien cette maison elle est située rue Royale à Bruxelles, et il y a toute une réflexion dans le chef de la région bruxelloise pour savoir comment recycler cet espace grâce aux technologies immersives, interactives, comment recycler cet espace en un espace où on réfléchit vraiment à cet enjeu de la décolonisation. Et donc là, c'est aussi un beau projet qui dialogue avec cet impact sociétal que peut avoir la technologie.
Complètement, je vais compléter par rapport à une deuxième utilisation que peuvent avoir les outils numériques qui sont l'objectif de préservation. Donc, dans le cadre de l'incubateur de lab qui fait partie de mon programme, qui est en fait un projet qui a été initié seulement l'année dernière, qui vise en fait à former et accompagner les acteurs culturels justement dans leur transformation et dans la transformation d'une offre touristique et culturelle de valorisation du patrimoine. Et l'idée, c'est que chaque année, en fait, ces acteurs se mettent ensemble pour imaginer des nouvelles expériences qui peuvent être produites, qui peuvent donner lieu à la création de lieux et de nouvelles sorties culturelles pour le grand public. Et en 2021, le projet lauréat s'appelait donc The Stone Tell Their Tales, donc en français, les pierres racontent leur histoire. Et en fait, ce projet était un projet en réponse en fait à une problématique qui est la visibilité des monuments invisibles. On a un patrimoine qui a été détruit, disparu. Ici, dans ce cas-ci, c'est un monument qui s'appelle l'Hôtel Aubec, qui est très représentatif du style Art Nouveau et pour lequel en fait la région possède depuis des années et des années des pierres qui historiquement étaient les pierres de la façade. Et il se pose la question de se dire finalement comment rendre ces pierres attractives, comment en fait par ces pierres on peut préserver le souvenir de ce bâtiment qui a une grande valeur architecturale. Et donc ici tout l'enjeu était de se dire on devrait finalement faire parler les pierres grâce aux technologies. Et donc là est venue toute une scénographie en fait qui repose entre autres sur le mapping et donc la projection vidéo et la réalité augmentée et qui permet aux visiteurs de devenir finalement acteurs d'expérience, pas seulement spectateurs d'une vidéo qu'on leur mettrait, mais donc de pouvoir tourner autour des pierres et petit à petit, comme dans un puzzle, de recomposer en fait la mémoire du lieu. Donc, ce projet passionnant, il est porté par différentes institutions bruxelloises, dont le réseau Art Nouveau, dont Urban, donc le Palais de Charles Quint, également donc des architectes, également des acteurs du CIVA. Et donc, tous ces acteurs se sont réunis avec des studios avec lesquels ils n'avaient jamais eu de dialogue jusqu'à présent, des studios donc de nouvelles technologies, dont un studio belge qui s'appelle Overtone. Et donc, ce dialogue a permis petit à petit au projet à devenir un concept durable, viable. Et donc, l'objectif ici 2023, ça va être de pérenniser ça. Et je pense qu'effectivement, cette démarche qui a inspiré beaucoup de personnes est assez représentative des potentiels du futur, en fait, de l'offre touristique culturelle. Donc, c'est petit à petit des acteurs du public et du privé qui se mettent ensemble pour essayer d'instaurer des expériences, en fait, qui puissent être attractives, durables et viables.
Ici, on a justement passé un peu en revue comment le numérique pouvait être un outil d'inclusion, un outil de préservation. Il y a le troisième axe, selon lequel le numérique peut être un outil de valorisation et ça pour rebondir utilement sur l'expérience relatée par Géraldine. Il y a quelque part cette question de plus en plus aujourd'hui de se dire, on va pas préserver pour préserver numériquement. En fait, la valorisation tend à un peu dicter de plus en plus à l'heure du numérique. L'enjeu de la valorisation tend à dicter ce qu'on va préserver, ce qui va faire sens. Comment on va pouvoir finalement... il faut se poser cette question-là, comment on engage les nouvelles générations par rapport à leur patrimoine? Qu'est-ce que ça fait sens encore? En quoi ça fait sens encore pour les jeunes aujourd'hui de conserver? Il faut que ce patrimoine, quelque part, reste vibrant pour eux. Et donc, voilà, toute la question vraiment de la monstration, de la valorisation, de la manière dont on va raconter un patrimoine, c'est très, très important. Et donc, on a eu cette expérience, notamment, pour donner un petit exemple, avec le Mundaneum à l'époque, de pouvoir numériser toute une série d'archives pour pouvoir les verser en ligne sur une plateforme qui à l'époque s'appelait l'Institut culturel de Google et aujourd'hui a pris le nom de Google Agriculture, qu'on connaît bien pour réunir aujourd'hui plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de partenaires, des centres d'archives, des musées de par le monde. Et l'ambition de Google était quelque part de créer une sorte de musée mondial, de centre d'archives mondial où on pouvait rentrer, zoomer et pouvoir avoir accès à des visites virtuelles, notamment comme ce que Géraldine racontait notamment par rapport au projet mené avec l'ICOM. Et donc, on a vraiment dû nous se mettre à l'époque, je me souviens, c'était en 2013, donc ça fait bientôt 10 ans, c'était les prémices du projet Google Agriculture et on a dû se mettre vraiment... en questionnement de dire qu'est-ce qu'on va numériser, qu'est-ce qu'on va choisir pour valoriser, pour raconter au mieux l'histoire de ce patrimoine du Mundaneum, quelque part de l'ancêtre de l'Internet.
Oui, donc effectivement, cette question de choix dans le numérique est assez importante parce qu'on se rend compte que parfois les personnes auraient tendance à tout numériser, mais la numérisation ne veut pas dire la transmission, les personnes ne sont pas toujours... réceptive et capable en fait d'ingérer toute l'information. Donc effectivement la question donc du format après de transmission est essentielle. Et je vais peut-être clôturer ce point sur les objectifs en fait des outils numériques par rapport à l'objectif d'éducation qui me paraît central. Effectivement, l'objectif d'éducation, par exemple, on l'a développé dans le cadre d'un projet Factory, donc du programme XR for Heritage. C'était ici l'année dernière, donc en 2021, avec Léa Saint-Géry. Nous avions dans le cadre du projet des 150 ans du voûtement de la Seine eu le souhait d'aborder ce thème différemment. Se dire finalement comment on pourrait donner envie aux jeunes publics principalement de se plonger dans l'histoire de leur ville. Et il faut savoir, il y a des archives, il y a des tableaux, mais des peintres parfois méconnus par les jeunes. Et donc, comment finalement réunir toutes ces informations dans quelque chose de digeste? Et le parti pris a été de se dire, on va utiliser quelques tableaux d'un seul peintre comme fenêtre d'un voyage spatio-temporel dans le 19e siècle et à travers des fictions sur les berges de la Seine incarnées par 4 personnages, on va finalement rentrer dans la réalité du quotidien le long de la Seine et montrer les problématiques qui ont mené au voûtement. Et ce parti pris a tellement intéressé finalement qu'on a réussi à convaincre Visite Brussels, donc la région, de ensuite transposer ce projet dans l'espace public pour en faire finalement une expérience numérique déambulatoire où le grand public va pouvoir se rendre compte qu'il marche sur l'eau littéralement quand il marche sur les grands boulevards de la capitale et se dire tiens ce tableau-là il correspond à telle rue au coin des Halles Saint-Géry Et là, il y a quelques centaines d'années, ben, il y avait l'eau sous nos pieds. Et donc, on est en train, là, pour 2022, l'objectif est donc d'arriver à la version bêta de cette application. Mais à travers ce jeu, c'est également se dire c'est quoi ces outils qu'on pourrait mettre dans les mains des enseignants, donc des réseaux scolaires, qui vont permettre finalement de faire des parallèles avec leurs programmes officiels, qui sont entre autres de l'haussmannisation, de l'aménagement urbain de la capitale, les questions sanitaires liées à la place de l'eau dans la ville. Donc comment finalement rendre ces thèmes qui viennent dans les cours d'histoire, géographie, finalement assez attractifs et participatifs pour les jeunes publics. Donc ça, c'est l'enjeu et il y a plein d'exemples, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dans cette direction de se dire finalement le jeu ne va peut-être pas transmettre toute l'info, ce n'est pas ça l'objet, mais il peut être un moteur d'intérêt qui pousse après en fait les publics à avoir envie de se documenter, d'en savoir plus et donc de franchir la porte des musées ou des bibliothèques pour poursuivre en fait une thématique qui serait lancée dans ce cadre-là.
Donc voilà, on avait envie avec Géraldine de peut-être d'emporter quelques clés justement pour l'auditeur et de se dire ben qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça quelque part. Moi, je travaille dans le secteur associatif, dans la culture et voilà, ça, je me pose énormément de questions. Alors par quel bout le prendre? Et donc d'abord peut-être un premier takeaway, si on pouvait préciser ça comme ça, ce serait de se dire que finalement, avec le numérique, on s'est rendu compte, et pour avoir travaillé dans la culture depuis bientôt 20 ans, d'une révolution en termes de changement de posture. Donc vraiment de se dire aujourd'hui, on ne peut plus faire sans mettre vraiment l'utilisateur au centre et démarrer finalement de la question du public. En fait, la vision de la démocratie culturelle, elle a vraiment pris beaucoup de place dans l'ère numérique, c'est-à-dire comment on va incapaciter le visiteur, l'auditeur, le spectateur, comment on va lui donner les clés pour pouvoir lui-même se réaliser, pour pouvoir lui-même faire les choses. On se rend compte que finalement, dans les lieux culturels, alors la vision de la curation, du choix des œuvres, du choix des spectacles est encore le propre du directeur artistique ou du conservateur, etc. Mais on sent vraiment qu'il y a une révolution dans les manières de faire et que parallèlement à ça, il y a une tiers-lieucisation, par exemple, du secteur culturel, hein, où quelque part on aménage des espaces où le public peut faire sien l'espace culturel et demander et faire vraiment entendre sa voix pour quelque part proposer un autre projet. Donc le numérique participe de ça aussi. Donc en termes de changement de posture, c'est d'être vraiment beaucoup plus à l'écoute de ce que le public souhaite voir, entendre et de pouvoir vraiment créer ce lien de proximité pour pouvoir être au plus pertinent.
Oui, effectivement, si je peux compléter par rapport à ce point-là, il y a la question des histoires également. Je pense que c'est important de se dire que les nouvelles technologies amènent également des nouveaux potentiels de formats d'écriture, des formats où l'interactivité est centrale. Et cette interactivité permet également d'amener des récits multiples qui permet peut-être de proposer des points de vue plus représentatifs de notre population, plus inclusifs sur l'histoire et le patrimoine. Je pense que c'est un point important, c'est-à-dire que si on souhaite que finalement les publics deviennent acteurs et ambassadeurs de la culture, qui puissent être partie prenante en fait du travail de préservation qu'on a à faire au niveau de la culture, il faut qu'ils puissent s'identifier en fait à cette culture. Et jusqu'à présent, en fait, la médiation, comme tu l'as bien dit, était un peu l'apanage de quelques personnes. Souvent d'un certain milieu social, souvent blanche, et ce qui est intéressant, je pense, dans les potentiels du numérique, c'est qu'on peut petit à petit rendre visible et audible des points de vue différents et donc coécrire également et revisiter l'histoire. Donc je pense que ça, c'est vraiment central au niveau de la transformation. Ce n'est pas finalement qu'un gadget pour faire des likes, parce qu'on réduit souvent le numérique à aux réseaux sociaux. Il y a vraiment une question de systémique en fait à mettre en place, de se dire finalement, on peut également revoir nos pratiques. Et donc, il ne faut pas que l'outil vienne trop loin dans la chaîne de fabrication, de production. Il faut qu'elle puisse être pensée, anticipée dans le processus de développement et d'écriture des projets. Je pense que c'est un point assez important.
Tout à fait. Et alors, pour rebondir justement sur l'importance du récit, l'importance de se raconter et de prendre en considération toutes les opportunités que donne le réseau, que donne l'interactivité générée par le numérique, hein, finalement, tout un chacun aujourd'hui, les associations peuvent devenir leurs propres médias, elles peuvent s'éditorialiser. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'éditorialisation, finalement, c'est de prendre en considération la technologie dans l'acte de se raconter. Et donc, prendre en considération les principes de la technologie, ça veut dire ben, on va écrire une histoire en considérant que l'histoire, elle va partir sur un réseau après. Et donc, si le réseau et si l'interactivité devient vraiment partie prenante de la manière dont on va raconter l'histoire. Et donc, tous les principes finalement aussi très techniques, hein, qui sont vraiment l'apanage de la technologie et du numérique, doivent être pris en considération dans l'esprit du community manager, de l'ASBL, du centre culturel, dans la manière qu'il va avoir de raconter la proposition culturelle, ce qui amène aussi un gros enjeu en termes de compétences, de skills, où là-dessus, effectivement, le digital donne l'opportunité à tout un chacun finalement de recycler tout le temps ses compétences, parce que le digital, c'est de l'innovation, ça change tout le temps, et donc il faut suivre, et donc quelque part d'essayer de prendre aussi cette révolution comme quelque chose de positif, et de se dire, ben voilà, j'aurais jamais fini d'apprendre toute ma vie, donc en termes de, je vais devoir développer des hard skills, des soft skills, et donc ça, en ça, c'est aussi quelque part une clé emportée avec soi.
C'est ça, et par rapport à ce point-là, j'étais très surprise. En 2021, on a quand même accompagné près d'une trentaine d'institutions culturelles, et un des points qui revenait souvent, c'est que finalement, ils se rendaient compte qu'il n'y avait vraiment aucune recette technologique, que la technologie devenait un outil, mais qu'il devait encore mieux définir l'histoire à raconter, et que surtout, c'est les outils d'idéation et d'intelligence collective qu'ils devaient acquérir, parce que une fois qu'ils avaient compris comment mieux réfléchir ensemble, finalement, ils avaient cette agilité pour pouvoir s'adapter avec l'évolution, comme tu dis, des techniques qui ne cessent en fait de changer. Donc, je pense que c'est très important de se dire finalement, c'est une posture qu'il faut adopter plutôt que croire qu'il y aurait une recette, qu'une fois qu'on l'aura étudiée, qu'on aura maîtrisée, on pourra la mettre en place. Il n'y a pas de loi ISO, en fait, de normes ISO pour la transformation numérique, ce qui peut être effrayant pour certains, mais qui permet aussi de donner libre cours à la créativité de tous les acteurs et de s'adapter aux besoins réels de chacun.
Absolument. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu mets en évidence, et j'avais envie de peut-être partager un petit en savoir plus, ou en tout cas une petite ressource justement aux auditeurs. Moi, je suis une inconditionnelle du sociologue des médias Dominique Cardon, qui a publié en 2019, je pense que c'était aux éditions aux presses Sciences Po, Culture numérique. Et tu parles de posture, Géraldine. Donc là, véritablement, le numérique, c'est une culture en soi. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, eh bien, voilà, il y a beaucoup de réponses qui arrivent c'est une manière d'être, c'est une autre manière de voir le monde, en fait. Et donc, dans son ouvrage, et je recommande vraiment sa lecture, à la limite de l'avoir, c'est une brique, hein, c'est quand même 400 pages, mais bon, moi, je le vois vraiment comme un béaba, un peu un que sais-je, la culture numérique, et de temps en temps, je vais retrouver un petit peu de sagesse dans ce que sais-je, parce qu'il remet vraiment les choses, l'église au milieu du village, et c'est vraiment très précieux d'avoir ce genre de ressources dans sa bibliothèque.
Super. Ben, moi, de mon côté, je vous invite à suivre l'actualité culturelle en belge qui est riche, diversifiée. On a, par exemple, à Bruxelles, énormément d'expositions numériques. On a également, en Wallonie, je donne l'exemple de Redu, qui a un musée improbable qui s'appelle Moudia, pour découvrir l'art autrement, qui est très intéressant. Annuellement également, j'accompagne deux événements dont Brussels Virtual Week et Stereopsia, qui finalement font une veille assez internationale de ce qui est de ce qui sont les tendances en fait de la technologie, entre autres dans le secteur culturel. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer, à tester pour vous faire votre propre opinion, d'aller voir des choses. Je pense que c'est la meilleure façon finalement de voir ce que vous pouvez en tirer, vous, au niveau de votre activité.
Voilà, c'est fini pour cet épisode, mais retrouvez encore Géraldine et Delphine dans un second épisode, déjà disponible sur notre chaîne, dans lequel d'ailleurs je leur pose des questions sur, par exemple, qu'est-ce que le métavers, qu'est-ce qu'on peut en tirer dans les prochains mois, prochaines années, ou encore sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous partager par email vos retours sur notre podcast et à faire un tour sur notre site web, donc socialware.be pour la Belgique et socialware.lu pour le Luxembourg. Tech for Good, c'est un podcast proposé par Socialware ASBL. Écoutez nos prochains épisodes, abonnez-vous, partagez nos podcasts. Merci pour votre écoute et à bientôt.